Bonjour à tous et à toutes. Ça me fait plaisir d'être de nouveau parmi vous. Ça fait quelques années que j'étais plus à Tana avec les années Covid. Et puis, je voulais aussi que les étudiants soient exposés à d'autres enseignants, hein, pas toujours les mêmes. Et donc là, on vient de vivre 15 jours de cours décentralisés. C'était à l'église baptiste d'Ansa Abbé. Et on avait la joie d'avoir 32 étudiants et 6 finalistes qui ont complété le programme de 5 ans. Plusieurs ici ont déjà suivi cette formation et on a déjà fixé les dates pour l'année prochaine. C'est donc une formation qui est destinée à ceux qui sont responsables d'église et qui sont responsables d'activités et qui veulent en savoir plus. C'est tout simplement chaque chrétien qui veut mieux connaître la parole de Dieu. Et on a déjà fixé les dates. C'est facile à retenir, c'est le 14 juillet que la formation débutera en 2025, le 14 juillet 2025. Donc pour ceux qui doivent réserver à l'avance et qui sont intéressés, vous pouvez déjà le faire. Personnellement, actuellement, j'habite au Canada où je suis pasteur aussi, et donc à temps partiel, et puis aussi à temps partiel, je travaille pour l'Institut biblique de Genève. Juste avant de venir, il y a ma fille qui s'est mariée. J'ai 4 enfants et donc là, il y en a 2 qui sont mariés maintenant. Et puis, dans quelques jours, je vais aller voir ma mère. Elle fête ses 80 ans, donc juste avant de retourner au Canada. Ce matin, j'aimerais vous parler de la vie d'un homme qui a vécu une vie assez exemplaire et qui est une belle source d'inspiration pour chacun d'entre nous. Et donc, si vous posez la question, hein, ça fait un peu écho à ce que disait notre frère tout à l'heure par rapport aux mauvaises habitudes. On peut s'habituer à certaines choses et après cohabiter avec. Hein. Il parlait de cette rue qui était sale et finalement, ils se sont décidés à la nettoyer et ça change. Ça a un impact aussi sur le voisinage. Et je crois qu'on peut vivre une vie exemplaire et qu'on est appelé en tant que chrétien à vivre une vie exemplaire. Mais avant cela, je vous propose de lire le texte qui se trouve dans le livre de la Genèse, au chapitre 39. Et je vous propose de lire les versets 7 à 20. Genèse, chapitre 39, les versets 7 à 20. Et notre frère va faire la lecture de la parole de Dieu.
Après cela, la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit: couche avec moi. Il refusa et lui dit: mon maître ne prend connaissance de rien avec moi dans la maison. Il m'a confié tous ses biens. Personne n'est plus grand que moi dans cette maison et il ne m'a rien interdit sauf toi parce que tu es sa femme. Comment pourrais-je commettre un si grand mal et pécher contre Dieu? Elle parlait tous les jours à Joseph, mais il ne l'écoutait pas et refusait de coucher avec elle, d'être avec elle. Un jour, il était entré dans la maison pour accomplir son travail, et il n'y avait là aucun des gens de la maison. Elle l'attrapa par son habit en disant: couche avec moi. Il lui laissa son habit dans la main et sortit. Lorsqu'elle vit qu'il lui avait laissé son habit dans la main et qu'il s'était enfui dehors, elle appela les gens de sa maison et leur dit: regardez! Il nous a amené un Hébreu pour abuser de nous. Cet homme s'est approché de moi pour coucher avec moi. Mais j'ai poussé des grands cris. Quand il a entendu que je m'étais à crier, il a laissé son habit à côté de moi et est sorti. Elle posa l'habit de Joseph à côté d'elle jusqu'à ce que son maître rentre à la maison. Elle lui tient alors ce discours: l'esclave hébreu que tu nous as amené s'est approché de moi pour abuser de moi. Comme je me suis mise à crier, il a laissé son habit à côté de moi et s'est enfui dehors. En entendant les affirmations de sa femme qui lui disait: voilà ce qui m'a fait ton esclave, le maître de Joseph fut enflammé de colère. Il s'empara de Joseph et le mit en prison à l'endroit où les prisonniers du roi étaient enfermés. De rester donc là, en prison.
Merci. Merci Aïn pour la lecture de la parole de Dieu. Qu'est-ce qu'un homme ou une femme exemplaire ? Exemplaire dans quel domaine ? Exemplaire face à l'épreuve, face à la tentation. D'ailleurs, dans le Nouveau Testament, le mot qui est traduit par épreuve est le même que le mot tentation. C'est le contexte qui nous permet de définir si c'est une épreuve, s'il s'agit d'une épreuve ou d'une tentation. Mais il faut savoir que dans la plupart des épreuves, il y a en germe une tentation. Aujourd'hui, parmi les luttes auxquelles nous avons à faire face, les luttes sur le plan sexuel sont très présentes. C'est une des principales luttes, mais ce n'est pas le seul domaine de lutte. Par exemple, on peut être tenté de chercher notre sécurité dans les biens matériels, dans une carrière, plutôt qu'en Dieu. Il y a toutes sortes de luttes. Bien sûr, le texte de ce matin nous parle principalement de la lutte sur le plan sexuel, mais vous allez voir que les éléments que Joseph va déployer dans la réponse qu'il va faire à la femme de Potiphar, qui le tente, sont utiles pour toutes, en tout cas plusieurs des éléments sont utiles pour toute forme de tentation. On va voir comment Joseph réagit face à cette tentation à laquelle il doit faire face. Je vais commencer par une observation. Première observation, j'en ai qu'une seule d'ailleurs, le livre de la Genèse est découpé en 10 grandes sections. Et la dernière section commence au chapitre 37, au verset 2, et toutes ces sections sont introduites par cette expression « voici la postérité de ». Et là, il s'agit de la postérité de Jacob. Et la postérité de Jacob nous est décrite, elle est développée dans les chapitres 37 à 50, ce qui en fait la plus longue section du livre de la Genèse. C'est incroyable, la structure de la Genèse est assez simple, il y a 10 tolédotes. 10 fois, il y a cette expression qui introduit la postérité, parce que depuis la promesse de Genèse 3,15, on attend quelle sera cette postérité qui va sauver l'humanité. Et là, il est question de la postérité de Jacob. Et dans cette postérité de Jacob, il y a deux personnages qui ressortent. Bien sûr, Joseph, qui occupe l'essentiel de l'espace, mais aussi Judas. On en reparlera dans quelques instants. D'abord, Joseph exemplaire face à l'épreuve. À l'épreuve et à la tentation. Et on va voir que cette fidélité de Joseph va le conduire dans une certaine difficulté, puisqu'il va injustement se retrouver en prison. Ce qui est curieux, c'est que le récit de Joseph s'arrête à la fin du chapitre 37, puis il est interrompu par le récit de Judas, et ensuite, au chapitre 39, on reprend avec Joseph. Qu'est-ce qui se passe ? Joseph est âgé de 17 ans, et il est vendu par ses frères. Et là, ça m'amène à une première remarque, c'est que Joseph a grandi dans une famille dysfonctionnelle. Une famille de fous. Une famille de dingues. Joseph se retrouve avec un père qui en fait son chouchou, et ça a le chic d'énerver ses frères. Mais pas juste un peu, au point où ils veulent le tuer. Vous imaginez la jalousie. Et c'est en grande partie la faute de Jacob, son père. Si je dis que c'est une famille de fous, je pèse mes mots. Une famille de dingues. Pourquoi ? Imaginez, la sœur de Joseph se fait violer, le père l'apprend et ne réagit pas. Ruben, le frère aîné de Joseph, il couche avec sa belle-mère. Jacob ne dit rien. Toutes ces choses sont ce qu'on appelle des secrets de famille, des choses qui pourrissent la vie d'une famille de l'intérieur. Donc vous vous rendez compte, Joseph a grandi dans un milieu toxique. Il y avait la haine de ses frères et probablement aussi de ses sœurs qui étaient attisés constamment par Jacob qui lui avait fait une tunique exceptionnelle qui d'ailleurs n'était probablement pas du tout multicolore comme on l'apprend à l'école du dimanche, mais à manches longues. Mais c'était de toute manière la même idée, c'est qu'il avait un vêtement spécial qui montrait un peu la différence avec les autres et qui lui conférait une certaine autorité parmi ses frères. Et à un moment, le père dit, va voir tes frères, et il va aller les voir, et c'est là qu'il décide de lui ôter la vie. En fait, ils ne vont pas le faire, finalement, ils vont le jeter au fond d'un puits, ils vont le sortir du puits, ils vont le vendre à des marchands d'esclaves, et il va atterrir en Égypte. Donc vous imaginez, à l'âge de 17 ans, il est extrait de cette famille de façon assez violente, d'ailleurs on voit aussi là le côté complètement dingue de cette famille, puisque des frères qui veulent tuer un autre frère, à la limite en pensée, on peut encore se dire ça peut nous arriver dans la colère, mais de là, l'idée de passer à l'acte et de vendre son frère comme esclave, c'est quand même un truc de dingue. Et voilà qu'il se retrouve à 17 ans en Égypte, il ne comprend rien à l'égyptien, il ne connaît rien à la culture égyptienne et il est complètement seul. Il passe d'un contexte où il était le chouchou de son père à un contexte où il est tout en bas de l'échelle sociale, esclave, dans la maison de Potiphar. Et au début, il ne comprend même pas la langue. Donc vous savez, quand on lit Genèse 39 et qu'on lit les 6 premiers versets, on a l'impression que ça se lit en quelques secondes, mais dites-vous que pour Joseph, les années étaient longues. Avant qu'il puisse commencer à parler l'égyptien, il a fallu apprendre la langue. Alors bien sûr, à 17 ans, ça connecte encore assez vite, il a probablement appris assez vite, mais il a fallu faire ses classes. Au début, il ramassait certainement les ordures, il faisait de vile besogne. Mais en l'espace de quelques années, il a une ascension fulgurante. Il se retrouve le chef de la maison, le chef des esclaves, l'intendant. Son maître ne s'occupait plus de rien, juste de sa nourriture. Joseph s'occupait absolument de tout. Il avait obtenu la faveur de son maître. Et le narrateur, Moïse, nous précise, au verset 6, « Joseph était beau de taille et de figure. » Ah là 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 là, ça sent pas bon. C'est rare qu'on nous dise que quelqu'un est beau. Ça a aussi été le cas de Sarah ou Sarai, et on sait les problèmes que ça a générés. Ça ne veut pas dire que la beauté est un problème, mais une bénédiction ou quelque chose qui est vu positivement par tout le monde peut devenir parfois aussi une source de difficulté. Que se passe-t-il ? Dans les versets 7 à 12, vous avez des tentatives répétées de la tentatrice. La tentation sexuelle répétée de la femme de Potiphar envers Joseph. Et bien sûr, le refus de céder de Joseph. Il est dit, hein, c'est très cru, hein, la femme de son maître leva les yeux sur Joseph et sans transition, couche avec moi. Elle lui dit, couche avec moi. Paf, c'est violent. J'aimerais faire juste une précision avant d'aller plus loin, parce que je ne voudrais pas que vous me fassiez dire ce que je n'ai pas dit. Attention à l'idée que toutes les femmes seraient comme ça, des tentatrices, des séductrices. Il ne faut pas généraliser. Pensons à Genèse 34, où c'est tout le contraire. Sichem a violé Dina, la fille de Jacob et de Léa. Bien sûr, ça existe, des femmes tentatrices, la preuve. Mais la plupart des femmes, nous devons le reconnaître, sont les victimes sur le plan sexuel des abus des hommes. Je suis pasteur aussi, j'étais responsable dans un institut biblique pendant 25 ans, et beaucoup de jeunes femmes, malheureusement, ont été victimes d'abus de la part des hommes. Mais revenons à notre texte. Ici, il s'agit d'une femme, ça existe aussi. Joseph est un bel homme, il doit avoir autour de 25 ans. Et sa femme de son maître lui ordonne crûment « couche avec moi ». N'oubliez pas que c'est la femme de son maître. elle lui donne un ordre, c'est un impératif. Et comment Joseph va-t-il réagir? Et je vous propose que dans la réaction de Joseph, on peut dégager 6 éléments. La première chose qui est claire, il refusa. Il refusa. Et maintenant, on va voir pour quelles raisons il refusait. Et moi, je vous propose que Joseph a préparé sa réponse. Sa réponse est beaucoup trop élaborée pour avoir été improvisée. Il a dû voir venir la chose. Ce n'était pas quelque chose de... Bien sûr, ça a été très direct, mais je pense qu'il a vu venir les choses et qu'il s'y était préparé. Et là, je pense que c'est une première leçon pour nous. Il faut se préparer aux tentations, à l'épreuve. Parce que quand elle est là, c'est souvent trop tard. Il faut avoir une théologie. Il faut avoir une vision claire pour pouvoir résister. Et je vous propose 6 éléments. Premier élément, comment Joseph a-t-il pu résister? D'abord en fonction de ce qu'il croit. Dans les versets 8 à 9, il est dit « Avec moi, lui dit-il, mon maître ne s'occupe de rien dans la maison. Tout ce qu'il possède, il me l'a confié. Et personne n'est plus grand que moi dans cette maison. Mon maître ne m'a rien refusé d'autre que toi, parce que tu es sa femme. Et comment puis-je faire cela ?» Ce qui est incroyable, c'est que la logique que Joseph déploie ici, un autre homme aurait pu la déployer pour faire exactement le contraire de Joseph. Mais qu'est-ce qui a alors fait la différence? Parce qu'un autre homme aurait pu dire « Mais j'ai la liberté, après tout elle est consentante, et puis c'est mieux que d'aller voir une prostituée. Et après tout, personne n'en saura rien, on est seul. Puis elle ne dira rien, ce n'est pas dans son intérêt de dire quelque chose, ça se passera mal pour elle et pour moi, mais elle tombera avec moi, ça sera notre secret. » Ce qui l'a empêché de faire, de commettre le péché, c'est sa vision du monde et de Dieu qui l'anime. En fait, Joseph est un homme qui craint Dieu plus que les hommes. Et ça, c'est quelque chose qui génère beaucoup de problèmes et pas seulement des tentations sur le plan sexuel. C'est la crainte des hommes plus que la crainte de Dieu. L'Écriture nous enseigne massivement à craindre prioritairement Dieu. On le confesse facilement, mais on ne le vit pas facilement. Personne n'est plus grand que moi dans cette maison. Mon maître ne m'a rien refusé, sauf toi, parce que tu es sa femme. Deuxièmement, il est soumis et fidèle à son maître. Il ne veut pas trahir sa confiance. C'est un homme honnête. Il s'est engagé devant son maître. Son maître lui fait confiance, c'est son patron, et il honore son patron. Troisième raison, il a une grande vision du mariage. Il respecte le mariage. Il ne dit pas « Ah, mais ce n'est pas un mariage devant Dieu, c'est un mariage de païens égyptiens. » Non, Dieu honore le mariage. Ça fait partie de l'ordre créationnel. Dieu a institué le mariage. Et Joseph respecte ce mariage entre deux Égyptiens. Quatrièmement, et ça c'est vrai pour tous les péchés, Joseph fait quelque chose de simple, il appelle un chat, un péché, et il dit, c'est une chose mauvaise, comment pourrais-je faire cette chose? Le péché est péché, il appelle cette chose une chose mauvaise. Il n'en parle pas comme d'un détail ou d'une faiblesse passagère, il en parle de quelque chose comme quelque chose qui est mauvais, mauvaise plutôt. Il n'en parle pas comme de quelque chose d'anodin. Cinquièmement, il craint Dieu et il considère l'acte en référence à lui. Or nous, quand nous péchons, notre premier réflexe, c'est par rapport aux autres. On réfléchit aux conséquences sociales d'un péché. Mais le péché n'est pas d'abord péché à cause de ses conséquences sociales, il est péché parce que c'est une offense envers Dieu. Le mal du mal, c'est le mal qu'on fait à Dieu. Ça veut dire que si nous considérons le péché comme étant une souillure, quelque chose de laid, et que ça affecte d'abord Dieu, ça va nous aider face à la tentation. Parce qu'on va dire, je fais quelque chose de mal Qui veut faire quelque chose de dégoûtant, qui ne plaît pas à son Dieu? Mais le problème, c'est qu'on ne les considère pas comme mal devant Dieu. On se trouve des excuses, on minimise les situations. Ils considèrent cet acte en référence à Dieu. Et il est considéré comme une offense contre Dieu. Et le péché ne devient dégoûtant que c'est comme laver la main contre notre, comme lever notre main contre notre Créateur, un peu ainsi, je fais comme ça et je dis « Dieu, je m'en fiche de toi ». C'est ça péché. À chaque fois qu'on pèche contre Dieu, on lui dit « Je m'en fiche de toi ». Et quand on pèche, c'est comme si on crachait au visage de Dieu. Si on voit le péché comme ça, ça nous aide. Hein. Le péché est laid. Et finalement, sixièmement, Joseph savait qu'il ne fallait pas jouer avec le feu. Il refuse d'être avec elle s'il le peut, au verset 10. Il fait tout pour éviter sa présence, pour se retrouver dans la situation qui l'entraînerait potentiellement vers le péché. Parce qu'elle... On arrive tous à avoir une victoire ponctuelle contre un péché. Ça, c'est rien d'extraordinaire, mais c'est déjà bien. Mais là, c'est tous les jours qu'elle revenait à la charge. C'est du harcèlement. Mais lui, il s'est posé des limites. Il s'est fixé des règles. Est-ce que vous êtes fixé des règles par rapport aux choses qui vous tentent? Est-ce que vous avez des principes? Est-ce qu'en tant que pasteur ou en tant que responsable d'église ou responsable d'activité, vous passez des heures seul avec une personne de l'autre sexe, par exemple? Personnellement, je me l'interdis. Sans la présence d'une autre personne. Ce sont des règles simples et on peut appliquer ça à beaucoup de domaines de tentation. Ensuite, cette femme se rend compte que ça ne marche pas. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va tenter de passer à l'acte en force. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle attrape le vêtement de Joseph et ce manteau sera utilisé comme un faux témoin. Elle va prendre le manteau et elle va le montrer. Et vous savez que le manteau de Genèse 37 à la fin, il y avait un manteau qui avait été baigné dans le sang. Et il a été montré à Jacob. Regarde, il est mort. Ce manteau est déchiré par une bête sauvage. Et regarde le sang de ton fils. C'est de nouveau un manteau qui sert ici de faux témoin. Elle va le montrer au serviteur, elle va le montrer à son mari. Elle va dire, voilà la preuve. En fait, elle a détourné les faits. C'est mensonger. C'est dégoûtant, c'est dégueulasse. Mais c'est comme ça. Il y a parfois des injustices. On passe parfois par des injustices dans notre vie. Et ce qui est extraordinaire ici, c'est que c'est à cause de la fidélité de Joseph qu'il va se retrouver en prison. Parfois, notre fidélité peut nous faire perdre un emploi, peut nous faire perdre une promotion. Mais ça vaut la peine d'être dans le cadre de la volonté de Dieu plutôt que de désobéir, parce qu'après, on va le payer autrement. On finira toujours par le payer. Et au plus tard, quand on se retrouvera devant le Seigneur et que nous devrons rendre compte de nos actes. Ce qui est fou, c'est que Joseph sait peu de choses sur Dieu. Qu'est-ce qu'il sait à ce stade, Genèse 39? Il sait que Dieu est créateur. Il est le créateur de toutes choses. Il a institué le mariage. Qu'est-ce qu'il sait? Il sait qu'il y a une promesse qui a été faite à Abraham. Il sait qu'il y a un Messie qui est dans leur lignée, qui va venir, mais il ne sait pas qui c'est à ce stade. Et il a ses rêves. Il a ce rêve que ses parents et ses frères et sœurs vont se prosterner devant lui. C'est tout ce qu'il a. Il a très peu de la révélation. Et encore, c'est oral. Mais le peu qu'il a, il s'y attache. le peu qu'il a de la révélation de Dieu, il s'y attache. Vous n'avez pas besoin de connaître beaucoup, mais soyez fidèle au peu que vous connaissez déjà. Et cette femme va l'accuser devant les esclaves, puis devant son mari, et finalement, donc avec des propos mensongers, c'est injuste, c'est décrit par main détail, je ne vais pas m'appesantir sur ces points. Le mari se met en colère, il finit en prison parce qu'il est fidèle à Dieu. On pourrait s'arrêter là, on se dit c'est déjà pas mal, on a 6 éléments qu'on peut dégager de la vie de Joseph pour nous aider face à la tentation. C'est déjà tout un programme, mettre ça en pratique, ne serait-ce que partiellement, c'est déjà bien. Mais en fait, on passe à côté de l'essentiel du texte, et c'est pour ça que j'ai volontairement voulu qu'on lise les versets 7 à 20, parce que la plupart des prédications s'arrêtent là. Mais en fait, on a loupé le point central du texte. Le point central du texte, il est avant et après. C'est ce qu'on appelle une inclusion. Il y a quasiment la même chose qui est dite avant et après. Allez-y. Voilà. Et d'abord, j'aimerais vous donner une définition de la providence. Parce que c'est la providence divine qui ressort fondamentalement de ce texte. Dans les chapitres 37 à 50, c'est dans ce chapitre 39 que la providence de Dieu est soulignée. Dans les versets 1 à 6, il est dit 5 fois que Dieu est avec Joseph. Dans les versets 21 à 23, il est dit 3 fois que Dieu est avec Joseph. Et le nom de Dieu, c'est le nom Yahvé, le Dieu de l'Alliance. Nom qui n'est pas utilisé ailleurs dans les chapitres 37 à 50. C'est la plus forte concentration qu'on ait. C'est la seule fois dans le livre de la Genèse où c'est autant dit en si peu de versets que Dieu est avec quelqu'un. S'il y a un personnage dont on ne peut pas dire que la providence de Dieu était à l'œuvre, c'est bien Joseph. Donc la providence, c'est reconnaître l'action et la bienveillance de Dieu, là où d'autres ne voient que l'effet du hasard. Nous, on sait que Dieu est à l'œuvre, et le texte le dit clairement. Moïse le répète à souhait. Dieu est avec lui. Fondamentalement, ce qui a permis à Joseph de résister face à la tentation, c'est que Dieu était avec lui et il s'appuyait sur Dieu. Et il savait que Dieu était vivant et il avait une grande vision de ce Dieu qu'il craignait. Et c'est ce qui lui a donné la force de résister et même de vivre l'injustice. L'Éternel, littéralement Yahvé, fut avec Joseph. 8 fois dans ce chapitre, c'est répété. Et ce qui est intéressant et que je voudrais souligner et que Moïse veut nous faire saisir, c'est que la bénédiction de Dieu se manifeste dans la vie de Joseph, non par une libération miraculeuse, mais par l'intégrité, par une réputation de fiabilité. Quelle est la bénédiction de Joseph? Elle est où? Il est en prison? C'est ça la bénédiction? Il est fidèle à Dieu, il se retrouve en prison? Non, la bénédiction de Joseph, c'est son intégrité. Parce que c'est son intégrité qui a fait que dans la maison de Potiphar, il a gravi les échelons. Et c'est son intégrité qui va faire que dans la prison, il va devenir le responsable des autres prisonniers et qui va sortir du lot. Les gens vont voir la différence parce que c'est un homme intègre. Est-ce que toi et moi, nous sommes connus comme des personnes qui sont droites? Quand il dit quelque chose, il le fait. Ce qu'il dit, il essaie de le vivre. L'intégrité. Vous savez, les gens nous lisent comme un livre ouvert. Et qu'est-ce qu'ils voient? Et je termine par mettre ce récit en perspective. D'abord par rapport au chapitre 38. Vous croyez que c'est un hasard que Moïse, d'un coup, il s'est dit « Ah mince, je ne sais plus la suite, ben, je vais parler de Judas et après j'y reviendrai. » Mon œil. Vous savez ce qui se passe ? Au chapitre 39, on nous présente un Joseph qui est esclave, qui ne fait pas ce qu'il veut, qui doit faire ce que son maître lui dit. Et au chapitre 38, on a Judas, son grand frère, qui est un homme libre. Et qu'est-ce qu'il fait de sa liberté ? Il va épouser une femme étrangère, une cananéenne. Il va avoir deux fils avec cette femme. Les deux vont mourir. Il aura une belle fille, Tamar, à qui il promet son fils, son plus jeune. Et il ne réalise pas sa promesse. Et sa belle-fille va lui tendre un piège. Elle va se déguiser en prostituée. Là où Joseph a résisté ou résistera un peu plus tard, qu'est-ce que fait Judas ? Il voit une prostituée, il est veuf, il dit ben, « je vais vers la prostituée ». Vous croyez que c'est un hasard qu'on place Judas au chapitre 38 et son antithèse au chapitre 39 ? Il y en a un qui est libre, qui est riche, qui a du cheptel, qui est indépendant, mais qui rate sa vie et qui tombe dans le panneau. Et au chapitre 39, on a un Joseph qui est esclave, mais fidèle et intègre. Et lui, il va réussir aux yeux de Dieu. Si vous obéissez à Dieu, si vous êtes fidèle, vous n'allez pas forcément devenir Premier ministre. Il y aurait beaucoup de Premiers ministres pour un même pays. Enfin, ça serait à souhaiter. Mais disons, ce que je veux dire, c'est que ce qui est le plus important, c'est d'avoir la faveur de Dieu. Mais ce que je trouve beau, c'est que le plus important dans la Genèse, c'est qu'on attend Genèse 3:15, la promesse qui se réalise. Et par où va passer la lignée ? Par Joseph, cet homme intègre. Oui, il y aura deux tribus qui seront issues de Joseph. Mais la lignée par laquelle viendra le Messie va passer par ce loser, par ce gros naze, par ce nul qu'est Judas. Parce que Tamar, quand il apprend que Tamar s'est prostituée, vous savez ce qu'il dit ? Parole de sagesse, brûlez-la ! Brûlez-la ! Et là, Tamar, elle dit, attends, j'ai juste deux trucs à te montrer. Tu sais à qui ça appartient, ça ? Et là, Judas, il s'effondre. Pourquoi ? Parce qu'il reconnaît ses objets. Et il dit, tu es meilleur que moi. Et c'est à ce moment-là que Judas devient un croyant. Judas devient un homme de Dieu à ce moment-là, et Dieu peut l'utiliser. Et ce qui est beau, c'est que la descendance par laquelle viendra le Messie, elle va passer par Judas. Quelle grâce, quelle miséricorde. Et cette même grâce est à l'œuvre dans la vie de Joseph. Mais c'est par Judas que le Messie va venir. Ça nous rappelle la grandeur de Dieu et sa miséricorde. Quand on chute, quand on tombe, Dieu nous relève dans la mesure où on se présente devant lui, dans notre, en reconnaissant le péché dans toute sa laideur. Et là, Dieu est fidèle et juste et nous pardonne. Et juste par rapport à la fin du récit, parce que ce récit est central ici dans la dernière section du livre de la Genèse, Genèse 39 constitue une étape vers l'élévation de Joseph à la cour d'Égypte. Et vous savez ce que Dieu va faire grâce à Joseph ? L'histoire de Joseph ne nous est pas juste racontée comment résister à la tentation. Elle nous est racontée pour nous dire comment Dieu va réaliser son plan de salut. Puisque grâce à lui, des millions d'Égyptiens vont être sauvés, puisqu'il va devenir Premier ministre. Il va bien gérer les ressources du pays pendant les 7 années d'abondance et il va les réutiliser pendant les années de disette, de famine. Donc il va sauver des millions d'Égyptiens, mais surtout, il va sauver sa famille. Ceux qui ont voulu le tuer, il va les sauver. Ça nous fait penser à quelqu'un d'autre hein, qu'on a voulu tuer et qui nous a sauvés. Jésus-Christ. Et Joseph peut dire, Vous avez voulu faire le mal, mais Dieu a voulu faire le bien en gardant beaucoup de gens en vie jusqu'à aujourd'hui. Et grâce à lui, ce qui n'était qu'un clan familial dysfonctionnel va devenir un grand peuple en Égypte. Et ce peuple, après, va prendre vraiment naissance dans le livre de l'Exode et ça va devenir le peuple de Dieu. Donc au-delà de l'histoire de Joseph, Dieu utilise Joseph comme un instrument pour accomplir son plan. Et c'est ce qu'il peut faire de toi et de moi si nous menons une vie intègre, une vie qui cherche à l'honorer, que nous puissions être sel et lumière là où Dieu nous place. Six leçons, pour terminer, que je dégage de ce texte. Comme Joseph, nous trouvons de l'espoir dans la promesse que Dieu fait en sorte que toutes les choses, même les dysfonctionnements horribles et atroces qui nous arrivent souvent à cause de notre péché, concourent à notre bien. Que ce soit des circonstances extérieures ou des circonstances personnelles, Dieu peut les faire concourir à notre bien si nous les plaçons devant lui. Deuxième chose, le même Dieu qui a souverainement pris soin de Joseph prend soin des plus vulnérables. Et si tu te sens nul, faible, comme Judas ou comme Joseph, ben y a de l'espoir pour toi. Il a pris soin de Joseph quand il était tout en bas de l'échelle sociale, et après de nouveau quand il était en prison. Troisième chose, ce récit de Genèse 39 nous montre que Dieu s'intéresse plus à notre intégrité qu'à nous donner des circonstances heureuses. Moïse souligne vraiment le fait que Joseph était intègre. C'est pourquoi nous pouvons placer notre confiance en lui, parce que Dieu ne change pas. Il veut que nous lui fassions confiance sans connaître l'avenir. Il attend que nous comptions sur lui. Quatrièmement, quelles sont les mesures d'autodiscipline que tu as mis en place dans ta vie pour faire face aux choses qui pourraient te tenter? Cinquièmement, et lorsque nous sommes tentés, lorsque nous chutons, hein, comme l'a fait Judas avec la prostituée Tamar, qui était sa belle-fille, et qui deviendra sa femme, les deux enfants qui naîtront font partie de la descendance, et un de ses enfants sera de la lignée du Christ. Et lorsque nous sommes tentés, nous devons aller vers lui et compter sur le Saint-Esprit qu'il nous a légué pour nous fortifier de l'intérieur. On peut toujours revenir à la croix quand on a péché. La croix est suffisante. Et un jour, nous avons cette promesse que nous verrons que chaque petite victoire pour l'amour de Jésus a porté du fruit. Et maintenant, je vais vous dire quelque chose de très choquant que j'ai entendu dans la bouche de Don Carson, un éminent professeur de théologie. Il a regardé l'auditoire, comme je vous regarde, et je pourrais m'inclure, et je m'inclus, mais il a dit ceci: si vous êtes là, chacun ce matin, c'est parce que Joseph a eu le courage de garder son pantalon. Qui sait, nous ne le saurons peut-être pas, mais Dieu sait combien notre intégrité, notre obéissance peut avoir un impact sur notre famille, notre quartier. Vous ne le voyez pas. Joseph n'a pas vu toutes les conséquences de son intégrité. Mais nous le voyons. Parce que Moïse a pris soin de nous le dire. Prions. Seigneur, pardonne-nous, pardonne-moi quand je me laisse envelopper si facilement par le péché, quand je trouve des excuses face à cette chose qui t'offense, ces choses qui t'offensent. Permets, Seigneur, que notre péché devienne de plus en plus laid à nos yeux. Que nous puissions voir le péché comme tu le vois, comme une offense envers toi, notre Créateur, et notre Père bien-aimé. Que nous apprenions à le voir par rapport à ce qu'il a coûté à la croix à ton cher Fils, pour que nous puissions être réconciliés avec toi. Fortifie-nous, Seigneur, pour tout ce qui est bon, juste et pur. Pardonne nos péchés si nombreux et soutiens-nous, conduis-nous par ton Esprit Saint pour que notre vie, nos paroles et nos actes soient comme un parfum de Christ autour de nous, que notre obéissance soit motivée par la reconnaissance pour un si grand salut. Que toi, ô Dieu, et ton Fils deviennent ma principale préoccupation. Jusqu'au jour où nous tiendrons face à face devant toi et que ton Fils nous dise de sa bouche « Entrez dans la joie de votre Maître, bons et fidèles serviteurs. » Et dans cette perspective éternelle où il n'y aura plus de souffrance, plus de lutte, plus de larmes, nous voulons marcher fidèlement à ta suite et compter sur ta grâce. Amen.